Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment Bismarck, chancelier du Nouvel Empire germanique, a-t-il pu s'exclamer devant le Reichstag en 1872 « Rassurez-vous, nous n'irons pas à Canossa, ni par la chair, ni par l'esprit. » À quel précédent historique faisait-il référence? Quelle est la relation qui lie intimement le pouvoir et la gloire? Et pourquoi faire une anatomie de la gloire, s'interroge aujourd'hui l'historien Patrick Boucheron. Qu'est-ce que faire une histoire accueillante à ce qui la déborde? Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », a ouvert hier une nouvelle grande enquête sous le titre « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Si cette nouvelle série va s'interroger progressivement sur ce que cela veut dire « émergence du politique » et comment on pourrait stabiliser et travailler ce syntagme un peu flottant, pour Patrick Boucheron, il s'agit surtout de risquer une théorie générale, non pas des systèmes de pouvoir médiévaux, mais de son inventivité politique. Dans une interview donnée au Journal du Dimanche en février 2019, Patrick Boucheron revient sur son métier d'historien et il indique « Je suis sensible à une manière dynamique et respectueuse de considérer l'inventivité des sociétés humaines. À suivre la trace d'Ambroise de Milan, je me disais « Quelle énergie, quelle inventivité !» L'histoire n'est pas une école de la fatalité, mais une philosophie pratique de la capacité d'agir des hommes et des femmes en société. Elle nous montre de quoi nous sommes capables, c'est-à-dire de beaucoup plus que ce que l'on croit. Pour ma part, à travers l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, je ne tente pas seulement d'éclairer le pouvoir de ceux qui nous gouvernent, mais aussi ce que nous pouvons face à eux. Selon Patrick Boucheron encore, écrire l'histoire, c'est mettre celles et ceux qui nous lisent en position d'élargir leur perception. Il ne s'agit pas de faire la leçon, mais peut-être simplement, comme avec la littérature, d'aider à mieux respirer. Le présent ne cesse de percuter le passé de manière imprévisible. Cette interrogation sur notre rapport complexe à l'histoire revient depuis le cours d'hier. Évoquant les travaux d'Ernst Kantorowicz, il a ouvert le dossier des dangers inhérents au métier d'historien. Dans la même interview, Patrick Boucheron déclare « Je suis méfiant devant l'idée qu'il faudrait systématiquement jeter des ponts entre les événements. Mieux vaut simplement rendre le passé disponible à la compréhension du présent. » Mais l'arrogance du présent vient toujours avec la métaphore obligée d'un précédent historique. Dès que surgit un événement, on somme les historiens de la comparer à autre chose. Nous gagnons le Collège de France le 12 janvier 2019 pour le cours de Patrick Boucheron. Aujourd'hui, l'anatomie de la gloire.
J'avais commencé mon cours, vous en souvenez peut-être, par l'idée un peu apaisante, enfin en tout cas placide, que l'on pouvait refermer proprement un chantier de fouilles, en l'occurrence ici cette archéologie d'un nom propre que j'ai entrepris devant vous il y a quelques années et qui renvoyait davantage qu'à une fiction politique, à un souvenir, à une croyance, celle d'Ambroise de Milan. J'avais dit ça tout en disant que ce recouvrement pouvait laisser un reste inassimilable, un rebut, qui serait au fond rétif à la conversion. Et ce raté du remploi, je l'ai appelé l'embarras des origines liturgiques du gouvernement des modernes. Mais bon, cela, je l'ai un peu asséné comme une vérité d'évidence, davantage que je l'ai explicité ou démontré. Donc, je souhaite recommencer, ou en tout cas reprendre, rappelant que j'avais souhaité commencer par là, par cette question liturgique, peut-être parce que j'avais été moi-même étonné par l'importance qu'avait prise dans l'écriture du livre sur Ambroise, des hymnes, c'est-à-dire de cette manière d'écriture de l'histoire qui fort à partir donc justement du chant hymnique, une anamnèse qui mènerait d'un très lointain passé à ce très lointain passé qui se nomme Ambroise. D'où l'étude que j'avais commencée, la façon dont Ernst Kantorowicz s'était peut-être lui-même laissé surprendre, l'histoire est l'art de se ménager des surprises, se laisser surprendre par le cours à la fois entêté et tortueux de son enquête sur les louanges royales qu'il entreprend en 1934, qu'il achève en 1946, qu'il espérait peut-être minutieusement séparé des hantises du présent qu'il fuyait évidemment en allant aux États-Unis, mais on n'est jamais à l'abri quand on est historien et ces hantises revenaient se fracasser en somme sur son objet d'étude, comme si les revenants n'étaient pas toujours les spectres du passé, mais parfois les fantômes d'aujourd'hui. Et en travaillant sur l'expérience sensible d'un chant d'acclamation, Kantorowicz ne se réfugiait donc pas dans les charmes d'une curiosité érudite. Et vous vous souvenez peut-être que ce fracas prenait la forme d'un écho rythmique des laudes et de leur triade latine, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, dans les acclamations fascistes que Kantorowicz cite à la toute fin de son livre, commentant un hymne mussolinien qui en était comme la répétition. Et il achève ainsi, en écoutant ce chant exécuté par les balias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation. Et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. Il y a donc des dangers inhérents au métier d'historien, c'est-à-dire plus précisément encore à la profession d'exhumer le passé. Et que quand on nous demande frénétiquement, parce que les événements semblent l'exiger, alors c'est quoi le précédent? Racontez-nous une histoire. Et si on exhume le passé, alors on ferait quelque chose de potentiellement dangereux. C'est un problème qu'il faut prendre sérieusement. Comme au fond, une alerte sur, je dirais, la déformation professionnelle. Une expérimentation. Or, Kantorowicz, avec les laudes, ne produit pas seulement une expérimentation historiographique, il rend compte de l'expérience de pensée et d'émotion que provoque chez lui le retour intempestif de cette expérimentation médiévale, les laudes, faisant irruption dans l'aujourd'hui avec fracas. Le dernier chapitre de son livre de Laudes Regiae s'intitule « Les laudes à l'époque contemporaine ». Il évoque une lente désuétude à partir du XVIe siècle. Elles furent encore chantées en 1530 au couronnement de Charles Quint, mais cette érosion laisse comme en géographie derrière elle quelques buts témoins, en Bohême ou en Dalmatie, où la formule survit en retrait de la domination vénitienne au XIXe siècle. Et oui, l'histoire n'a pas toujours la netteté théâtrale que certains espèrent. En Angleterre, c'est super. En Angleterre, le dernier laude, la formule Christus vincit, se trouve en marge de l'ordo du couronnement de Richard II en 1377. Donc voilà, là on peut faire un cours avec ça en disant ben voilà, on parle plus de royauté davidienne à partir de 1377. Bon, mais c'est pas vrai partout. Et cette impureté dans le cours du temps permet des passages de relais surprenants. Ainsi, lors des fêtes de Pâques de l'année 1918, Charles, le dernier empereur Habsbourg, est aussi le dernier à recevoir cette acclamation liturgique peu avant l'effondrement politique de son empire. Au fond, juste au moment où se brise, en Europe centrale, le dernier lien qu'une monarchie moderne, celle de la couronne d'Autriche, maintenait avec les souverains de l'Empire d'Orient. À travers les laudes, on a donc un outil puissant, vous voyez, de périodisation ou de dépériodisation. Il résulte d'une expérimentation rituelle que l'on peut dater précisément, 780. Donc, dans l'effet de souffle de l'invention de l'onction royale, le coup d'État de Pépin le Bref, 751, où on dit effectivement, suivant l'usage des Francs, Pépin fut élu roi oint par la main de l'archevêque Boniface, lit-on dans les annales royales des Francs, mais évidemment, on dit comme on a toujours fait au moment où on fait pour la première fois. Et donc ça, c'est une innovation. De même que pour contrer cette innovation, ben, on sait maintenant, presque à coup sûr, que la papauté va rédiger le plus fameux faux de l'histoire médiévale ou de l'histoire tout court, la donation de Constantin, précisément dans ce contexte franc, précisément à ce moment-là. Donc, une réaction pontificale et, au fond, un modèle de royauté qui va faire long feu, mais dont l'ensemble du Moyen-Âge va voir, au fond, errer le spectre. Et donc, on va pouvoir dater la fin des acclamations à la mort de Richard II, en 1400, au couronnement de Charles Quint, en 1530, ou en 1918. Donc, il en ira de la longueur du long Moyen-Âge. Donc, nous sommes en 1918. Alors là, c'est fini, pour 4 ans. Pour 4 ans seulement. Le 6 février 1922, Achille Ratti est élu pape sous le nom de Pie XI. C'est un Milanais, très sportif, alpiniste de renom. Il inaugure plusieurs voies du Cernin, du Mont-Blanc, qui porte son nom. C'est un érudit, préfet de la bibliothèque ambrosienne, spécialiste de Charles Borromée. Et à la fin du mois d'octobre 1922, eh bien, ce sont les fascistes qui marchent sur Rome, et Mussolini aussi vient de Milan. Tiens, c'est marrant. C'est-à-dire que les deux futurs partenaires des traités du Vatican vont se lancer des défis et des contre-défis, et l'un des premiers terrains de cette politique d'intimidation est liturgique. En 1925, Pie XI institue une nouvelle fête religieuse qui est issue du mouvement liturgique, celle du Christ-Roi. Il s'agit de faire front aux ambitions totalitaires du fascisme italien en opposant l'idéal transcendantal de l'empire universel du Christus Rex. Et donc il fait ressurgir les Laudes. Et c'est ici qu'intervient le travail de l'érudition. Et c'est pour ça que Kantorowicz dit que, eh oui, c'est dangereux, ce métier d'exhumer le passé. Il précise d'ailleurs que le pape Pie IX avait pu entendre encore à Zadar, lors de son jubilé pontifical de 1871, les Laudes. Donc, il y a cette histoire discontinue. Mais la nouvelle messe qui est établie alors, lors de la fête de la royauté du Christ, est surtout inspirée par les promoteurs de la renaissance de la musique grégorienne dans un milieu musicologique apparemment éloigné de toute politique qu'on appelle justement le mouvement liturgique. Ainsi, put à nouveau s'entendre dans les églises romaines cette acclamation ancienne et en même temps nouvelle, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je cite Kantorowicz. Toutefois, toute renaissance du passé est comme une lame à double tranchant. Lorsque Pépin ressuscita l'idéal du Rex et Sacerdos avec l'onction royale d'inspiration biblique, il ne pouvait se douter que cette innovation serait immédiatement contrée par la donation de Constantin et contribuerait ainsi à promouvoir le pendant du Sacerdos et Imperator dans la hiérarchie ecclésiastique. Il en va de même avec les répercussions inattendues du cri « Christus Rex » qui est repris dans toute l'Europe fasciste, en Belgique, par les rixistes, justement, en Espagne, par les franquistes, soldatos de Cristo Rey. Et c'est ainsi que s'achève le livre de Kantorowicz, par l'évocation de ce chant italien, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, à notre pontife suprême et père universel, paix, vie et salut perpétuel. À notre roi Vittorio, qui règne avec bonheur par la grâce de Dieu, vie et salut perpétuel. Au Duce, Benito Mussolini, la gloire du peuple italien, paix, vie et salut perpétuel. Quand ceux d'en haut parlent de paix, le petit peuple sait que c'est la guerre, écrit Bertolt Brecht. Mais ce ne sont pas les derniers mots du chant des Balilas, qui sont aussi les derniers du livre. Tempora bona veniant, que viennent les temps favorables. Comment on peut terminer ainsi un livre d'histoire médiévale. Quelle étrange fin. Aussi étrange que la fin du dimanche de Bouvines. On l'a oublié, mais à la toute fin du dimanche de Bouvines. Duby, qui effectivement peut-être se reproche d'être s'être laissé emporter, lui aussi, par le rythme même de la narration de son témoin, qui prenait avec lui la théologie de la victoire. Duby, donc, achève son livre sur l'évocation crépusculaire de la théologie politique de la croisade et du dieu des batailles, tels que Franco, en 1971, la célèbre de manière lugubre en commémorant la bataille de Brunete. 1975, hein, le dimanche de Bouvines. Hein. C'est de l'histoire chaude. Et voilà les derniers mots. Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts, un soir, à Brunete, avait autrefois plané sur Bouvines. Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï, 1975, et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce Dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Comment on peut terminer ainsi un livre d'histoire médiévale? Comme l'a montré Felipe Brandi dans un article intéressant des cahiers du Centre de recherche historique en 2009, cette fin lugubre a été profondément incomprise. Et pas seulement en Espagne. Son livre a été traduit du vivant de Franco, donc toute la fin a été censurée. En France non plus, on ne comprend pas très bien pourquoi un historien se permet de terminer comme ça. Dans son compte-rendu des annales de 1974, Bernard Guenet regrettait cette dernière page qui laissait Philippe Auguste, écrivait-il, je le cite, en bien mauvaise compagnie. Et le lecteur, un peu trop loin de cette atmosphère du XIIIe siècle que Georges Duby avait si merveilleusement recréée pour lui au fil de ses chapitres. Alors, oui, il en convenait, l'historien avait cédé à des pensées généreuses, je cite encore Bernard Guenet, mais pouvait-on comparer la propagande médiévale à celle des États contemporains? Alors non, sans doute. Et Duby, d'ailleurs, ne le fait pas. La difficulté, c'est qu'il ne fait rien. Il ne compare pas, il ne s'explique pas sur l'usage de cet anachronisme. Juste, il met en regard et il s'arrête. Il abandonne, au fond, le discours de la méthode historique au point où ce discours se laisse déborder. Déborder par une émotion politique, par une expérience, peut-être, et ce débord désigne peut-être aussi l'insuffisance de l'histoire. Alors pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que nous vivons un temps où chacun adhère avec vigueur, parfois même avec agressivité, à ses propres convictions, et où je cherche, au fond, plutôt à inquiéter la profession d'historien, c'est-à-dire l'idée que l'évocation d'un précédent historique puisse nous éclairer sur le diagnostic du présent est tellement évidente et assénée avec tellement de conviction qu'il me semble plutôt intéressant de voir aussi en quoi elle offre à l'historien des occasions de se méprendre même lourdement. Et pour cela, Kantorowicz est effectivement un guide inestimable, lui qui, l'année de sa mort en 1963, à un admirateur allemand qui l'avait imprudemment félicité de la réédition de sa biographie monumentale de Frédéric II, répondait de ces mots désabusés, il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Göring fit cadeau à Mussolini en lui dédicaçant. Et ça, évidemment, Kantorowicz ne cesse, depuis les années 30, d'écrire contre lui-même. Et contre cette fascination. Dans son livre traduit en français en 2001 sous le titre « L'historisme en débat » de Nietzsche à Kantorowicz, Otto Gerhard Huxle affirmait « Si l'on prend au sérieux les objectifs de l'auteur, il faut cependant dire que ce livre, Frédéric II, de Kantorowicz n'a plus rien à nous dire. » Alors oui, sans doute, la mystique de l'Allemagne secrète n'a plus rien à nous dire en elle-même. Mais un livre échappe toujours aux intentions de son auteur et rien ne sombre entièrement dans l'oubli. C'est ça, évidemment, le drame de Kantorowicz en 1963. L'histoire des Laudes était aussi celle de leur résurgence inattendue après leur troisième fin. On avait vu ensemble qu'il y avait trois belles fins pour les Laudes, Richard II, Charles Quint et puis 1918. Et puis 1922, ça recommence. Il y aurait donc, oui, des dangers inhérents au métier d'historien, c'est-à-dire, plus précisément encore, à la profession d'exhumer le passé. Cette chute du livre de Kantorowicz m'a toujours intrigué, plus que ça, alarmé. plus que ça, alerté. Alain Bourreau a réédité son Kantorowicz, Histoire d'un historien, qui était paru initialement en 1991, avec une courte préface inédite et intéressante, je trouve. Il y rappelle comment il avait cherché dans cette biographie expérimentale à reconstituer le parcours biographique, ou du moins la tension existentielle du personnage. Et cette tension, il l'avait assignée vers un désir d'appartenance. Il avait dit, voilà, Kantorowicz est cet historien qui brûle d'appartenir. D'appartenir à une totalité. L'Allemagne, l'université. Et Alain Bourreau expliquait sa méthode en revendiquant, sinon la légitimité, du moins je dirais l'efficacité narrative et théorique, de cerner son personnage, non pas seulement par des contextes, mais par des fictions. Et ce, disait-il, en l'absence de sources. Alors ça, c'est la faiblesse sans doute du livre, parce que les sources existent. Je parlais du livre de Robert Lerner, qui est une biographie à l'américaine, qui vient de sortir en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette biographie documentée va périmer la biographie rêvée d'Alain Bourreau. Je pense pas non plus. Je pense pas parce que Alain Bourreau s'en explique très bien. L'historien produit des explications par des corrélations, mais il trouve ces corrélations le plus souvent du fait de la proximité dans les sources elles-mêmes. Donc, au fond, si elle est expérimentale, sa biographie, c'est qu'il cherche à dépayser ses habitudes, à dérégler les automatismes, à miner la notion de contexte, toujours circulaire par définition, en cernant au fond son personnage d'explications hypothétiques qu'il prend dans l'invention romanesque, faisant un usage expérimental de la fiction pour rendre visible, donc contrôlable au fond, la prolifération des hypothèses. Bref, il s'agissait d'intervenir sur les sources et les objets historiques, quitte à leur faire violence, et c'est cela qu'on appelle une expérience. Une expérience fait violence au réel. Ou en tout cas, la dépayse, la bouscule, la désorganise. Je reviens donc sur l'insistance des Laudes. Pourquoi elles reviennent? Pourquoi elles insistent? Pourquoi elles persistent? Comment comprendre cette persistance? Et pourquoi faudrait-il la comprendre d'ailleurs? Ou plutôt, cette compréhension est-elle historique? S'il faut la comprendre, c'est en faisant, me semble-t-il, un détour philosophique. Et c'est cela que je propose d'appeler une histoire accueillante à ce qui la déborde. Il faut désigner le débord, comme Duby, mais peut-être aussi tenter de le cerner, comme Bourreau, de fiction. En l'occurrence, ici, je dirais, fiction théorique. Non pas laisser en suspens, parce que ce jeu des concordances, des temps, peut être un peu vain, surtout lorsqu'il permet aux médiévistes, et je ne m'excepte pas de cette critique, de donner son opinion sans y toucher, de feindre de parler d'autre chose en s'affairant à ses petits problèmes. Non, il s'agit plutôt d'expérimenter des formes d'histoire où se déborde, se suspend, ce seuil d'indistinction serait effectivement cerné par la fiction théorique. Je vais m'expliquer, toujours à partir des Laudes. On pourrait dire des acclamations qu'elles sont archaïques et que ce qui revient avec le fascisme, c'est un fond archaïque. Après tout, pourquoi pas? Ça nous va bien. Politiquement, ça nous va bien. Mais elles le sont très tôt, archaïques, ces acclamations. Depuis au moins le XIIIe siècle, souvenez-vous, puisque, au fond, elles naissent de ce nouage carolingien entre le règne et le sacerdoce. Elles renvoient donc à une matrice théologico-politique qui n'a plus cours après la réforme grégorienne. C'est bien ça, le problème. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un archaïsme ? Giorgio Agamben, dans « Le règne et la gloire », dit ceci, « Plus qu'à un stade chronologiquement plus ancien, nous devons ici penser à un seuil d'indistinction toujours opérant, où le juridique et le religieux deviennent parfaitement indiscernables. » Et cette zone-là, qui incertaine, qui mêle liturgie, cérémonie, insigne, acclamation, émotion, peut être dite la gloire. Et voilà pourquoi Giorgio Agamben s'est intéressé à ce travail de Kantorowicz, et voilà ce qui me fournit le titre de la séance d'aujourd'hui, Anatomie de la gloire. Je cite le commentaire de Agamben à l'issue de son analyse du livre qui nous réunit, si j'ose dire, celui de Kantorowicz sur les laudes. Les chercheurs qui se sont occupés des aspects cérémoniels du pouvoir, c'est toujours dans le règne et la gloire. Et parmi eux, Kantorowicz est certainement le plus lucide. Ces chercheurs semblent donc hésiter à poser une question pourtant difficile à éluder. Quelle est la relation qui lie si intimement le pouvoir à la gloire? Si le pouvoir est essentiellement force et action efficace, pourquoi a-t-il besoin de recevoir des acclamations rituelles et des chants de louanges, de revêtir des couronnes et des tiares encombrantes, de se soumettre à un cérémonial pénible et à un protocole immuable, en bref? Lui qui est essentiellement opérativité et oikonomia, c'est le concept d'Agamben, l'économie, pourquoi s'immobiliser hiérarchiquement dans la gloire? On lit chez Giorgio Agamben cette démonstration à bien des égards implacable. La gouvernementalité de ce qu'il appelle notre démocratie glorieuse, et oui, ça nous revient, s'origine dans l'oikonomia de la liturgie des acclamations. Et dès lors, au passage, est-il illusoire de réclamer un retour du politique pour contrer une économie qui règne sans partage, puisque la politique n'est rien d'autre que cette machine de gloire. En effet, je cite là la fin du livre « Le règne et la gloire », ce que notre recherche a montré, c'est que le vrai problème, le mystère central de la politique n'est pas la souveraineté, mais le gouvernement, n'est pas Dieu, mais l'ange, n'est pas le roi, mais le ministre, n'est pas la loi, mais la police, ou aussi bien la machine gouvernementale qu'ils forment et maintiennent en mouvement. Il s'agit en somme de reprendre la question que Guy Debord posait déjà en 1967, mais en fait c'est comme s'il nous la posait à nous, aujourd'hui. Pourquoi cette immense accumulation de spectacles? Et il nous la pose à nous aujourd'hui, parce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'en 1967. Pourquoi cette immense accumulation de spectacles? Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série « Les inventions du politique, expérimentation médiévale », aujourd'hui « L'anatomie de la gloire ».
Pour le comprendre, le règne et la gloire précipite son lecteur vers une longue plongée dans la théologie trinitaire des pères, inépuisable ressource philosophique pour penser le politique, car depuis saint Paul, ce sont bien les théologiens qui le pensent, rapport entre le Dieu transcendant qui règne mais ne gouverne pas et le gouvernement incessant du monde, si bien que ce qu'il y a de plus politique, peut-être, dans la littérature médiévale, est moins les miroirs aux princes que les traités sur les anges, ces ministres de la bureaucratie céleste, ou les fictions politiques, comme on a pu le voir ensemble. Mais, en tout cas, pour Agamben, la gloire, eh bien, ce qui, dans le gouvernement, se survit à lui-même, assure sa perpétuité, au-delà de son exercice, sachant que, et c'est pour ça que c'est évidemment théologique, sachant qu'au jour du jugement dernier, tandis que les anges suspendront leur gouvernement sur les hommes, s'animera alors cette économie des acclamations et des louanges qui est le vrai du pouvoir. C'est impressionnant. C'est pas pour ça que c'est vrai. Mais c'est impressionnant. Mais en tout cas, voilà pourquoi la question de la liturgie que Agamben a posée dans son livre intitulé « Opus Dei, archéologie de l'office », traduit en français en 2012, Homo Sacer 2.5, révèle d'autres filiations inattendues, notamment celle entre opérativité et effectualité. Parce que le mystère de l'office, c'est le mystère de l'efficacité. J'insiste. Cette inquiétude est en effet notre hantise contemporaine. Prenez la réflexion philosophique sur le commun, ou historique sur l'espace public. Je tiens qu'elle en ait l'envers apeuré ou consolant. Lisons de la littérature, par exemple, la littérature. Lisons Don de Lillo, Cosmopolis, 2003, qui, dans une scène troublante, parle d'un golden boy, violemment riche, qui parle avec une collaboratrice qui s'appelle Kinski de la modification du concept de propriété, le chiffre étant devenu, dit le personnage, sa propre justification. Je cite, « L'argent a perdu son caractère narratif, de même que la peinture l'a perdu jadis. » Ce qui est très intéressant sur le cours des choses et ceux qui s'intéressent à la valeur de l'art. Il y a une valeur narrative qui est perdue. Kinski, qui est la collaboratrice du jeune Golden Boy, est tétanisée. La scène est à Broadway. Ils sont dans une limousine. Ils voient déferler les informations, mais c'est pas celle qui défile sagement comme à Times Square, à quelques blocs de là. Non, c'est un crépitement. C'est un foisonnement trop fugace pour être absorbé. Et les personnages, à ce moment-là, comprennent que dans ce capitalisme qui vient, seule la vitesse compte. D'où la proposition essentielle, je suis en train de lire un roman, hein. Nous n'assistons pas tant au flux de l'information qu'à un pur spectacle. L'information sacralisée, rituellement illisible, les petits écrans du bureau, de la maison et de la voiture deviennent une sorte d'idolâtrie. Ici, les foules pourraient se rassembler avec stupéfaction. Et le problème, c'est qu'un médiéviste face à une telle fiction romanesque s'y reconnaît. Il ressent une étrange familiarité. Tout lui parle. La ritualisation de l'illisibilité, le surplomb des grands récits inaccessibles. C'est comme ça qu'on parle des vitraux de cathédrales qui se déroulent bien au-dessus de nos têtes et qui, effectivement, ritualisent le fait qu'on ne les comprend pas mais qu'on se sent surplombé par eux. Le rythme, le flux, la stupéfaction. Bon, on reconnaît là des thèmes bien connus de la pensée critique de la surmodernité. Je parlais de Guy Debord, qui a théorisé la dégénérescence de l'espace public en un lien virtuel qui est à la fois unifié et diffus, c'est-à-dire sublimé et déréalisé en spectacle, ce qui est évidemment le non-lieu de la politique. Le spectacle, je cite Debord, est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on ne voit plus que lui. Le monde que l'on voit est son monde, la société du spectacle. Et dès lors, on pourrait dire avec Walter Benjamin, nous assistons à la chute du cours de l'expérience. Mais la chute du cours au sens du krach boursier. C'est dans ce texte magnifique de 1933 qui s'appelle « Expérience et pauvreté », où il décrit notre pauvreté en expérience depuis 1918, depuis le fait que la grande expérience du monde contemporain soit incommunicable, dit-il. Alors ça a à voir évidemment avec la nostalgie du conteur. Ce qui est en jeu, c'est effectivement la narration qui ne se fait plus, notamment entre les générations. C'est un texte où il parle de son père qui lui racontait des histoires et il écrit sur sa propre enfance. Qui, aujourd'hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d'embarras? Qui chercherait à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée? Voici pourquoi Pierre Legendre, qui a préfacé les Laudes Regiae, le livre de Kantorowicz, insiste sur ce point. Nous n'en avons sans doute pas fini avec ces pratiques liturgiques, désormais récupérée par, je cite maintenant Legendre, les célébrations publicitaires, l'industrialisation des emblèmes, les litanies des marques, vaste système d'invocations au service des nouveaux pouvoirs disséminés. Disséminés. Nous croyons vivre séparés de ce régime liturgique par lequel le pouvoir se donne comme un objet d'acclamation. Un objet fascinant, un objet digne d'acclamation, dit Legendre, en psychanalyste et en juriste. Ce qui nous en sépare est le gouffre de la Révolution française, qui nous rend incompréhensible, effectivement, l'institution rituelle des sociétés politiques. Et pourtant, alors on dira, la dévotion fasciste, elle a confisqué les formules rituelles de l'allégeance, elle a une fois pour toutes éteinte la question liturgique, puisqu'elle s'en est saisie, mais comme une religion séculière, hein, ce que Emilio Gentile appelle la religion du politique, c'est-à-dire, au fond, cette formule d'obéissance qui fait de la politique sa seule religion. Et dès lors, la question liturgique reste en suspens. Elle est, écrit Pierre Legendre, potentiellement errante, flottante, sans attache. Le régime dogmatique de l'Occident a opéré la désintrication entre ces deux plans du discours que sont le droit et la théologie. Et donc, de ce rite cassé, ne demeurent que des brisures, des rebuts, justement, des restes dont s'emparent les médiévistes, parce que ces objets brisés, vous vous souvenez, hein, sur quoi on lisait le tricolone, sur des monnaies, sur lames d'épée, sur des cloches, tout ce bric-à-brac de la sacralité, tout ce Moyen-Âge sonnant et trébuchant. L'écrivain Pierre Michon dit « Le Moyen-Âge, ça fait toujours un bruit de casserole ». Bon, bah, tout ça, tout ce bric-à-brac, qui est effectivement ce sur quoi travaillent les médiévistes, le rebut. Eh bien, il rentre non pas dans la fusion sartrienne, mais dans la forge legendrienne de la modernité occidentale. Et c'est cela qu'on peut appeler, effectivement, la transe. Dans un texte intitulé « La mort, le pouvoir, la parole », Ernst Kantorowicz au travail de la fiction et du politique, c'est toujours ça, je ne parle que de ça, qui est publié en épilogue de son « Sur la question dogmatique en Occident », Pierre Legendre reprend cette question. Kantorowicz a mis en lumière une dimension perdue de nos constructions institutionnelles qui est, dit-il, la dimension théâtrale. Cette efficace, cette performativité. C'est pour ça que j'en parlais avec Louis Marin au début de du cours de l'année dernière. D'où l'importance qu'il donne à la fiction figure de vérité. Fictio figura veritatis. D'où aussi la facture de ses écrits à Kantorowicz, où les formulations médiévales sont comme effectivement les proverbes de Walter Benjamin, c'est-à-dire des empreintes comme ça qui sont ciselées, qui sont autonomisées afin de restituer leur frappe emblématique. C'est-à-dire à produire un effet comparable à celui qu'ils avaient dans l'écrit savant qui les certissait, qui leur servait d'écrin d'origine. Et là encore, on retrouve la théâtralité de Louis Marin. C'est-à-dire retrouver dans ces objets médiévaux leur frappe, pour frapper les esprits. Donc, au-delà de l'exégèse immédiate des textes, indispensable, la relecture de Kantorowicz par Pierre Legendre le conduit à réfléchir sur la valeur, à proprement parler, théorique du Moyen-Âge. La valeur théorique du Moyen-Âge. Et ça, c'est ultimement la leçon que cette lecture lui suggère. Je cite, « Le Moyen-Âge a énoncé la vérité anthropologique des fondements de la modernité européenne, c'est-à-dire posé avec précision, par des métaphores, la structure logique de l'identité, toujours en jeu dans les constructions institutionnelles, combinant la mort, le pouvoir, la parole, éléments qui, en toute culture, se trouvent soudés par une représentation généalogique de base. La mort, le pouvoir, la parole. Nous en sommes là. Dans l'entretien qu'il donna à Claude Bonnefoy en octobre 68 et qui a été édité sous le titre « Le beau danger », Michel Foucault l'affirmait. Je pense que l'alternative à la mort, ce n'est pas la vie, c'est la vérité. Dans ce texte, qui est un texte somptueux, où il s'explique avec sa propre écriture, où il s'étonne qu'on puisse la trouver agressive, quand pour lui, écrire est une activité extrêmement douce, feutrée, qui va vers le velouté plutôt que vers le mordant. Mais où il dit aussi la crainte d'être un philosophe qui écrit et dont la valeur serait dans l'écriture. Il dit ceci, penser, c'est poser un diagnostic, d'accord, c'est traverser la parole de l'autre, c'est reconnaître, nommer, c'est prescrire, c'est au fond comme des gestes médicaux. Et il dit ça, lui, le fils du chirurgien qui s'est fait de sa plume un bistouri. Avec mon écriture, je parcours le corps des autres, je l'incise, pour faire apparaître, je cite encore, ce foyer de lésion, ce foyer de mal, qu'il appelle aussi cœur vénéneux des choses. Mais il est davantage anatomiste que chirurgien. Parce que si l'écriture est liée à la mort, il ne veut pas plus tuer qu'il cherche à ressusciter. Bien loin du rêve michelettien, il affirme « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre. » Parce que je pense que lui aussi sait que c'est dangereux. « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre, mais parce qu'il est mort. » On ne peut hériter de ce qui est mort. Voilà son travail, mettre à jour la vérité de ce qui est mort. Ou encore, je cite, « Ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie, c'est le déploiement méticuleux de la vérité. » Et voilà pourquoi je dis « anatomie de la gloire ». Alors, nous avons peut-être commencé à répondre à la question posée par le titre de la première séance, « Pourquoi des médiévistes ?» Mais nous sommes-nous pour autant éloignés du questionnement global sur les expérimentations politiques? Je crois pas. Parce qu'il s'agit toujours de retrouver l'attitude, au sens où on parlait la semaine dernière d'attitude de modernité, qui consiste à aller chercher les formes d'émergence de l'expérimentation politique là où elle ne s'énonce pas nécessairement le plus bruyamment, là où elle ne forme pas les étapes d'une évolution graduelle et linéaire. En prenant l'hypothèse de l'ostracisme antique, je cherchais à insister sur la notion de rythme du politique. J'ai posé l'hypothèse qui va nous servir durant les semaines qui viennent, que ce rythme est toujours à trois temps. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, comme la litanie, invention, usure, inversion. On invente, ça se dégrade, ça se retourne. Et l'expérience ne s'achève vraiment que lorsqu'elle renverse ses effets. Et en cela, elle est politique. Et cette déstabilisation, d'ailleurs, dangereuse, est une des manières de sortir de la lecture apocalyptique de Walter Benjamin, qui est celle de Le Gendre ou d'Agamben. Et pour cela, comme le rappelle Marielle Massé dans Style, critique de nos formes de vie, la poésie est un recours. Parce que la poésie comme expérience, elle nous rappelle le radical, père. L'expérience est un passage, elle nous rappelle la proximité, periculum, l'expérience est un danger. Donc au fond, par l'expérience, on passe à travers, on va jusqu'au bout, on touche la limite. Voilà ce que c'est que de tenter l'expérience. L'expérience, par exemple, pour Henri Michaud, c'est un moment de confiance, de bascule, de courage, disons, où l'on se confie au déséquilibre. Non, pas question de paix. Nous sommes inépuisables en expérience, écrit Michaud dans Passage. Alors, pour mener cette histoire rythmée mais hétérogène, une histoire désynchronisée des rémanences, des résurgences, on peut par exemple s'inspirer, c'est ce que je ferai, de l'allure narrative du livre de Michel Riault-Sarcey, Les aventures de la liberté, une histoire souterraine du XIXe siècle en France, paru en 2016. Son 19e siècle commence en 1848, non pour raconter l'événement, mais pour en déplier les possibles. Puis elle va chercher en amont les promesses de la liberté, puis elle les dépasse pour aller traquer ses résurgences, toujours ces trois moments, ses résurgences après l'échec de la République. Il s'agit en somme de déjouer la linéarité de la fabrique de l'histoire qui travaille à l'occultation des expériences. Parce que toute tentative d'enfermer le cours des événements dans une continuité, la loi du progrès chez George Sand, l'accroissement de la liberté par la diffusion de la connaissance chez Marie Dagout, qui écrit sous le pseudonyme de Daniel Stern, ou la force des choses chez Saint-Simon, tout cela c'est une manière d'occulter la capacité d'agir des subalternes, donc l'autonomie de l'expérience politique au sens notamment d'Edward Dobson. Donc déterminante est toujours la référence au passé. Donc ce que montre Michel Riault-Sarcey, c'est que évidemment, ici, en l'occurrence, surtout le XIXe siècle, le référent, c'est 1789. C'est une ressource permanente et principale de mobilisation émancipatrice. C'est là où on va chercher la force explosive des libertés passées. C'est là où on va se donner le courage de renouveler les promesses non tenues. Mais dans le même temps, c'est un piège. Parce que cela enferme les expériences des acteurs dans des continuités factices abstraites qui leur échappent, le progrès, les lois de l'histoire. Donc on est au cœur du problème, au cœur vénéneux des choses, dirait Michel Foucault, ce foyer de lésion qui est notre rapport au passé, ce besoin d'agir en répétant un précédent historique, ce présentisme à double fond qui est à la fois un tremplin et un frein à l'action. Alors, reprenons, et pourquoi pas à partir du XIXe siècle, comme point de répulsion. Le 14 mai 1872, Otto von Bismarck, chancelier du nouvel empire germanique, s'exclame devant le Reichstag « Rassurez-vous, nous n'irons pas à Canossa, ni par la chair, ni par l'esprit. » Le pape Pie IX vient de refuser d'accréditer un ambassadeur allemand et Bismarck affirme alors qu'il ne se laissera pas humilier par la curie romaine. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, le pouvoir spirituel, mais aussi, d'une manière générale, la latinité qu'il assimile à une culture méridionale. Gang nach Canossa, aller à Canossa. Qu'est-ce à dire? L'expression renvoie évidemment à un événement fameux, qui date de presque 800 ans, la pénitence humiliante du roi des Romains, Henri IV, face au pape Grégoire VII en janvier 1077. Portant sur la nomination des évêques et des abbés, le conflit entre le roi et le pape, que les historiens vont appeler plus tard la querelle des investitures, elle engage une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, puisque, au fond, investir, ça veut dire conférer, transmettre. Le mot renvoie au Moyen-Âge à tout acte consistant pour une personne à déléguer un bien, une fonction, un pouvoir à une autre personne, et donc au lien social contractualisé qui fonde le socle de cette société, en tout cas du système de pouvoir de l'Europe occidentale, peu importe qu'on l'appelle encore vassalique ou déjà féodal, l'essentiel c'est de comprendre que le pape ici réagit, et le roi aussi, les deux réagissent à cette impulsion décisive liée à la réforme de l'Église, que l'on peut définir avec Jacques Dallarin comme un détournement de fidélité depuis la parenté charnelle jusqu'à la parenté spirituelle. Bon, en tout cas, il y a un conflit entre le roi salien Henri IV, élu roi de Germanie en 1056, et Grégoire VII, pape depuis 1073, qui va donner son nom pour l'historiographie à la réforme de l'Église, la réforme dite grégorienne, et elle s'engage sur une question majeure dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, rien moins que la concurrence entre deux prétentions à l'universel. Mais si l'enjeu est considérable, les armes de la querelle sont des plus classiques. Destitution du pape par un collège de cardinaux d'un côté, donc soustraction d'obédience, excommunication et mise au ban du roi par le pape de l'autre, donc levée du serment de fidélité. Donc, le roi et le pape se sont mutuellement anéantis en 1076. La situation, là encore, suit un cours banal, Normalement, ça devrait aboutir à la désignation d'un nouveau pape et d'un nouveau roi, puisque, voilà, la différence du roi de France, le roi allemand des Romains est potentiellement futur empereur. Il ne l'est pas encore. Il ne deviendra après Canossa. Est élu par une assemblée des plus grands princes laïcs, mais aussi ecclésiastiques. Donc, il y a un jeu classique des anti-rois et des anti-papes, dans lequel, au fond, c'est toujours le roi qui a le plus à perdre. Et voilà pourquoi, soumise à la pression des princes de l'Empire, Henri IV est contraint d'aller demander le pardon de Grégoire VII. Il le sait en villégiature dans un des châteaux de la comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, dans les Apennins. Alors le roi Henri IV décide de franchir les Alpes en plein hiver, contraint de passer le col du Mont-Cenis, comme jadis Charlemagne. Et le moine chroniqueur Lambert de Hersfeld décrit dans ses annales la troupe royale se hissant à grand-peine sur les sommets abrupts, tantôt à quatre pattes, tantôt en s'agrippant aux épaules de leur guide. On tire le roi sur une peau de bœuf, il est pieds nus, il pleure. Le 25 janvier 1077, le voici arrivé à Canossa, devant les portes du château que le pape a fait fermer. Et pendant trois jours, Henri IV piétine dans la neige épaisse, jeûnant, pleurant, jusqu'à ce que Grégoire VII assure de recevoir le souverain pénitent dans le giron de l'Église. Ça, c'est le sens du spectacle. Et c'est le souvenir effectivement humiliant que réactive Bismarck quand il s'exclame en 1872 « Nous n'irons pas à Canossa ». Donc ça veut dire à partir de ce moment-là, parce que ça veut dire encore aujourd'hui, je ne vais pas me laisser humilier. Dans un livre fameux, Harald Zimmermann fit l'histoire longue de la disponibilité de se souvenir de la pénitence de Canossa, qui devient au XIXe siècle, mais au XIXe siècle seulement, l'emblème de la soumission du pouvoir laïque face à l'autorité religieuse, mais qui symbolisait depuis la réforme le Sonderweg, c'est-à-dire la spécificité du devenir historique du peuple allemand. De ce point de vue, on peut, avec Pierre Monnet, rappeler que le chancelier du Nouvel Empire germanique engageait alors, je dirais, le Kulturkampf, qui partout en Europe, mais avec des modalités différentes, devait réaménager les rapports entre l'Église et l'État. Donc il s'agit d'un problème européen, de très longue durée. En Angleterre, dans les pays allemands, de l'Empire, les réformes religieuses du XVIe siècle ont abouti à des ruptures, vous le savez bien, donc le protestantisme luthérien, le calvinisme se sépare de l'Église catholique et romaine, l'anglicanisme, lui, monarchise et épiscopalise l'Église, et quant à la France, de toute façon, c'est une autre histoire plus longue, parce que depuis le XIVe siècle, la mise sous tutelle de la papauté, notamment par le séjour avignonnais, depuis surtout l'invention du gallicanisme qui place l'autorité des conciles au-dessus du pape, ben, ça permet d'éviter une rupture jusqu'à la loi de séparation de 1905. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, ce qui est en jeu, c'est un mode d'agencement complexe et négocié, une expérimentation politique qui, dans le cas de l'épisode de Canossa, se loge au cœur du rituel. Parce que, est-on certain que le roi ait subi une humiliation à Canossa? Après tout, il ressort renforcé de l'épreuve, tandis que le pape, lui, ne peut pas se dérober à son devoir d'absolution. Il faut qu'il pardonne, le pape. Il ne peut pas faire autrement. Donc tout le monde est dans son rôle. Et à la fin, il devient quand même empereur. Donc, en reprenant toutes les sources disponibles, en recalculant minutieusement les temps de parcours des voyages du roi et du pape vers Canossa, l'historien Johannes Fried a reconstitué l'ensemble de la séquence narrative dans un livre paru en 2012. La bibliographie sur Canossa est immense, et pas seulement en langue allemande. D'ailleurs, il existe aussi une bibliographie italienne sur l'événement que Fried d'ailleurs néglige un peu, mais peu importe, cette séquence qu'il reconstitue, eh ben, finalement, elle a un double fond. Il se rend compte, ne serait-ce que par les temps de parcours, j'ai pas le temps de reprendre sa démonstration, ben, qu'en fait, elle commence déjà, les événements commencent à la fin de l'année 1076 et comporte plusieurs phases de négociation, peut-être même un traité, qui assurait l'honneur réciproque de l'Empire et de l'Église. Et que l'événement a donc un double fond, que Johannes Fried permet de révéler tout en proposant une réflexion sans doute un peu agressive historiographiquement sur ce qu'il nomme la mémorique, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes d'inversion de mémoire, de reconstruction, de sélection, de déformation narrative des événements, comme le commente Benoît Grévin dans sa note critique « Polémique de la mémorique » qui est parue dans Francia en 2015. Parce que finalement, étudier ça, la transmission des textes et tout, ce n'est rien d'autre que l'exercice de l'histoire. À l'issue de la démonstration, il paraît aujourd'hui assez plausible que davantage qu'une capitulation improvisée, la pénitence de Canossa ressemble à la ritualisation d'une négociation préalable. Et de ce point de vue, les travaux de Gerd Althoff ou de les mises en garde de Philippe Buch nous mettent sur la voie. C'est-à-dire que la force des rituels oblige toujours chacun à tenir son rôle. Tout se déroule selon l'ordre implacable d'une liturgie. Une pénitence de 3 jours, un pape qui se laisse attendrir par les suppliques de 3 belles âmes, sa belle-mère Adélaïde, la comtesse Mathilde et l'abbé Hugues de Cluny, parrain de Henri IV, une politique des larmes. Chacun, oui, tient sagement son rôle, et il naît jusqu'au choix de la date, le 25 septembre, jour de la conversion de saint Paul, qui aura également duré 3 jours. Qui ne fasse sens dans une théâtralisation, justement, de l'événement. Donc, au fond, par ce rituel d'humiliation publique, Henri IV restaure une royauté davidienne qui est fondée sur la pénitence et qui est celle, justement, qui est à l'origine des laudes, c'est-à-dire ce nouage carolingien, en fait, entre Rex et Sacerdos. Donc, ça permet au souverain d'accéder au triomphe chrétien de l'humilité, dont Michel Zinc a rappelé dans un livre récent qu'elle était la vertu reine du Moyen-Âge chrétien, et par conséquent, le socle paradoxal de la souveraineté. Tel l'empereur Honorius Ier, qui, en 403 ou 404, dépose son diadème devant l'autel de Saint-Pierre, confesse ses péchés et, dit Augustin, dans l'un des sermons retrouvés par François d'Olbeau, se frappe la poitrine là où se trouve le cœur du pécheur, il réfléchit au mérite de Pierre, il croit à son triomphe, il espère parvenir par lui à Dieu, il se sent et se trouve aidé par ses prières. L'anatomie de la gloire sort donc cette lésion originelle qui est l'humilité souveraine. On est roi parce qu'on s'humilie et s'humiliant, on ressemble au Christ.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Patrick Boucheron, sa série Les inventions du politique, expérimentation médiévale. Aujourd'hui, l'anatomie de la gloire. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Il a publié au Seuil en 2019 La Trace et l'Aura, Vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle. Son livre « Faire profession d'historien », publié en 2010, a fait l'objet d'une édition en point seuil en 2018. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des inventions du politique en compagnie de l'historien médiéviste Patrick Boucheron. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.